jusqu'à 19h. Cap Sport.
Chaussez vos patins à glace, enfilez votre plus beau costume et c'est parti pour quelques pirouettes. On se plonge dans les championnats de Suisse de patinage artistique qui ont lieu ce week-end à Neuchâtel. Mais avant d'entrer sur la glace, on va pédaler. Le monde du cyclisme est à nouveau frappé par une affaire de dopage avec les soupçons qui entourent le Britannique Chris Froome. Être asthmatique semble compatible avec une carrière de haut niveau. Comment et avec quel encadrement? On s'y penche sans plus tarder. Bienvenue et dans ce dernier numéro, avant-dernier numéro de Cap Sport de 2017, Mathieu Schaffner, c'est vous qui nous accompagnez ce soir, bonsoir.
Bonsoir Yannick.
Alors on s'arrête tout d'abord sur cette affaire qui va faire encore beaucoup parler d'elle, le grand champion Chris Froome rattrapé par la patrouille.
Eh bien oui, le Britannique a été contrôlé positif lors du dernier Tour d'Espagne, c'était en septembre. Chris Froome présente un résultat anormal sur son taux de salbutamol dans les urines. Le salbutamol, qu'on appelle aussi ventoline, hein, c'est un produit utilisé pour lutter contre l'asthme. Le coureur du Team Sky en souffre depuis plusieurs années. Le Britannique risque plusieurs mois de suspension, il pourrait aussi être déchu de son sacre sur ce Tour d'Espagne.
Pour bien comprendre de quoi on parle dans cette affaire, Mathieu, vous vous êtes adressé au professeur Jacques Ménétré. C'est lui qui a mis en place toute la structure médicale de YAM Cycling, l'ancienne équipe professionnelle suisse du World Tour. Et vous lui avez déjà demandé comment on peut expliquer qu'un grand nombre d'athlètes de haut niveau, de cyclisme en particulier, souffrent d'asthme.
Alors je pense que la première raison, c'est qu'on le diagnostique bien mieux qu'on le faisait avant. Avant, on parlait de problèmes respiratoires à l'effort. Et on s'est rendu compte maintenant que les athlètes, de par l'exposition qu'ils ont avec l'entraînement qu'ils font à l'extérieur, l'augmentation de la pollution, les particules fines, le fait que les gens s'entraînent maintenant par tous les temps, font qu'ils développent une inflammation et une irritation des bronches qui mènent justement à cet asthme à l'effort qui est devenu très très courant.
Donc à bien vous comprendre, c'est le fait de devenir athlète de haut niveau qui peut provoquer l'arrivée de l'asthme dans le métabolisme?
Alors absolument, à force d'entraînement, je dirais à force d'être exposé aux différentes conditions que vous pouvez trouver en sport extérieur, c'est beaucoup moins fréquent dans les sports intérieurs, voire dans les gens qui pratiquent dans des stades fermés, mais les gens qui pratiquent du sport à l'extérieur peuvent développer effectivement au cours de leur carrière et de leurs heures d'entraînement un asthme à l'effort ou une certaine irritabilité bronchique lorsqu'ils pratiquent un sport.
Le grand public peut se dire parfois, oui, tous ces cyclistes qui souffrent d'asthme, finalement c'est la bonne excuse pour pouvoir prendre quelques produits, c'est pas du tout le cas finalement.
C'est toujours l'avis du café du commerce, comme on dit. C'est vrai que la prévalence de l'asthme à l'effort chez les cyclistes est importante, puisqu'elle est estimée à près de 80%. C'est d'ailleurs vrai également pour les skieurs de fond, qui sont eux en plus exposés au froid sec, qui est un des facteurs de risque pour développer des bronchospasmes. Donc, si vous voulez, une espèce de rétrécissement des bronches. Mais il y a quand même, il faut le reconnaître, des facteurs de risque qui font que ces gens-là peuvent développer ce type-là d'affection.
Et qu'est-ce que cela engendre finalement pour un cycliste? Est-ce que ça a clairement des répercussions sur ses performances?
Alors c'est évident, parce que lorsqu'on vous limite, on va dire, l'arrivée d'air dans vos bronches et vos poumons, vous avez le sentiment de manquer d'air, et si vous avez déjà pratiqué une activité sportive, c'est un sentiment extrêmement désagréable et qui vous transmet une sensation de limitation dans la performance. Il est donc très important pour les athlètes, à l'entraînement comme en compétition d'ailleurs, de pouvoir, je dirais, respirer au maximum de leur capacité et donc d'utiliser ces fameux bronchodilatateurs comme le salbutamol dont on a parlé maintenant en long et en large suite au cas Contador, puis maintenant au cas Froome.
Vous l'évoquez, cette affaire Chris Froome qui a éclaté mercredi. Le Britannique est contrôlé donc avec un taux de salbutamol dans l'urine deux fois supérieur à la limite autorisée. Pour vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Ah, je vais dire qu'en premier lieu, ça m'interpelle, c'est évident, parce que l'équipe dans laquelle Froome est actif est supposé être d'un très grand professionnalisme, donc c'est un tout petit peu étonnant, surtout lorsqu'on voit qu'il est là maintenant, il renvoie la responsabilité sur le médecin de l'équipe. Maintenant, il faut non plus pas, condamner l'athlète avant de connaître tous les éléments de cette histoire-là. Un taux de salbutamol peut être augmenté effectivement par des problèmes de déshydratation, effectivement par des problèmes de métabolisme, mais aussi par exemple par la prise d'un diurétique concomitant. Donc il faut faire la lumière sur cette affaire avant de, je dirais, de la juger.
Ce salbutamol, qu'on appelle aussi ventoline, il est donc utilisé pour lutter contre les problèmes d'asthme, dans le milieu du cyclisme notamment. Est-ce qu'il a d'autres effets aussi, ce produit ?
Le salbutamol, c'est un bêta-2 adrénergique et il peut avoir effectivement d'autres effets, notamment sur la musculature, des effets qu'on accorde comme stimulants pour le salbutamol, anabolisants pour le clambutérol. Et donc, c'est vrai que ces produits-là pourraient être détournés, on va dire, pour une amélioration de performance. Mais là, soyons clairs, ce serait une aide à la performance qui est quand même relativement limitée.
Justement, on a pu entendre depuis mercredi d'anciens coureurs professionnels dire que c'est finalement pas le salbutamol qui a fait gagner le Tour d'Espagne à Chris Froome. Donc ça, vous partagez cette analyse ?
Oui, je pense que effectivement, il ne faut pas non plus fantasmer, si vous me permettez le terme, de façon trop importante là-dessus. Certainement que le salbutamol peut aider, encore une fois, avec ses effets sur la sensation de performer, mais ça ne va pas augmenter non plus les choses de façon incroyable, hein, soyons clairs.
Il y a quand même plusieurs éléments troublants dans cette affaire Chris Froome, comme on l'a désormais appelé pour le grand public. Comment est-ce possible finalement que ce taux soit anormal sur la 18e étape du Tour d'Espagne, alors qu'on ne parle pas du tout des autres étapes de cette Vuelta ?
C'est une bonne question. Il y a peut-être eu un effet d'accumulation. Peut-être que ce jour-là, il a fait une crise d'asthme ou une aggravation d'asthme pendant l'étape. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. On le voit des fois à la télévision, lui et d'autres d'ailleurs, se faire un petit push pendant la course. Est-ce qu'il a eu une petite crise pendant la course et il a un peu paniqué et il a utilisé des pushs de façon irraisonnée ? Ça peut être une hypothèse. Encore une fois, il peut aussi avoir une cumulation. Ça, nous, on l'avait mesuré avec Yam Cycling. Vous pouvez avoir pendant un grand tour une accumulation, une sommation de votre état de déshydratation, si vous voulez, à savoir que vous pouvez venir déshydrater de plus en plus de jour en jour. Et donc, on pourrait imaginer que cet effet de déshydratation ait augmenté le taux de salbutamol dans ses urines. Mais encore une fois, tout ceci, ce sont des hypothèses, hein, je vous le dis, et ça, on s'exprime comme ça, mais il faudrait avoir la connaissance exacte du cas et des données de Froome.
On a entendu aussi Vincenzo Nibali, deuxième de cette Vuelta, dire qu'il pleuvait lors de cette 18e étape, que Chris Froome n'avait pas pu souffrir d'une crise d'asthme aiguë ce jour-là. Ça, c'est un scénario possible, avoir une crise d'asthme alors qu'il fait mauvais temps ?
C'est pas forcément les conditions. Je ne sais pas quelle était la température exacte lors de cette étape, quel était le profil, s'il y avait du pollen. C'est vrai que c'est plutôt le froid sec qui va déclencher un problème bronchique. Mais encore une fois, je pense qu'au-delà des commentaires, on va dire du milieu, il ne faut pas trop s'exprimer tant qu'on n'a pas les données exactes de cette histoire.
Jacques Ménétré, on rappelle que vous avez mis en place notamment la structure médicale de l'équipe Yam Cycling, une équipe qui prônait un peu à l'image de la Sky finalement, la tolérance zéro. Alors typiquement, au sein de Yam Cycling, comment on gérait un coureur qui souffrait d'asthme ?
C'était un coureur qui était suivi de très près par des spécialistes du domaine. Donc on avait un pneumologue qui testait les athlètes, qui mettait en place un traitement extrêmement précis. Et puis lorsqu'on avait des problèmes d'aggravation, parce que cet asthme à l'effort, il peut être aggravé également par une infection virale. Ça nous est d'ailleurs arrivé chez l'un de nos meilleurs coureurs, entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. On n'arrivait pas à s'en sortir avec, je dirais, le traitement de fond. On a donc dû lui donner des corticoïdes Peros. On a donc retiré l'athlète des compétitions. Et il n'a pas pu concourir derrière le Paris-Roubaix. Et c'était donc, je dirais, en accord avec la politique qu'on avait mis en place. En premier lieu, la santé du coureur, le respect des règles absolues dans ce domaine de l'antidopage. Et donc, nous, on a fait le sacrifice de retirer l'athlète de la compétition lorsqu'on n'était pas capable, encore une fois, en respectant les règles, de le maintenir à un niveau de performance et de santé correct.
Ça signifie que selon ce que vous avez connu, en cas de grande crise, c'est finalement difficile de respecter les règles ou en tout cas de pouvoir courir en respectant les règles ?
Alors, lorsque vous avez vraiment une crise ou un, encore une fois, une aggravation de cet asthme par une condition extérieure particulière, en l'occurrence là, chez nous, ça nous est souvent arrivé avec des problèmes d'infection virale concomitante, donc soit pendant un grand tour, soit pendant les classiques de printemps. C'est vrai que chez certains athlètes, ça devient très difficile et la chose qui me fait un tout petit peu sourire dans le CAF Room, c'est que la solution n'est certainement pas d'augmenter les doses de salbutamol pour essayer de traiter cette infection-là, mais plutôt, enfin, le plus souvent, on utilise une augmentation des anti-inflammatoires et donc des corticoïdes. Et si vous respectez encore une fois les règles de l'UCI et les règles antidopage, lorsqu'un patient doit prendre des corticoïdes par voie orale ou par d'autres voies d'application, eh bien, il faut le retirer de la compétition. Il faut le retirer de la compétition 10 jours. C'est ce que nous faisions. Nous retirions l'athlète de la compétition 10 jours. Nous refaisions un contrôle de sa cortisolémie, donc du taux de cortisone qu'il avait dans le sang. Et une fois que tout ceci s'était normalisé, on lui permettait de retourner à la compétition.
C'était donc le professeur Jacques Ménétri, ancien médecin de l'équipe YAM Cycling.
Cap Sport, jusqu'à 19h.
Et voilà, on a pu s'échauffer sur notre vélo dans la première partie de cette émission. On entre à présent sur la glace pour la compétition du week-end, les championnats de Suisse de patinage artistique. Ils se tiennent aujourd'hui et demain à Neuchâtel avec une quarantaine d'athlètes en lice.
L'organisation est assurée par le club des patineurs de Neuchâtel Sport. Son président est bien entendu sur tous les fronts ce week-end. Il a tout de même pris le temps de répondre à nos questions. Alors, Franco Godiano, qu'est-ce qui pousse un club à se lancer dans une telle organisation ?
Écoutez, dans notre cas, c'est surtout qu'on est aujourd'hui un centre de promotion des espoirs. Donc, il nous semblait normal qu'une fois durant l'année, on organise des championnats suisses pour le compte de l'Union Suisse de patinage.
Mais là, on parle de championnat de Suisse élite. Vous parlez plutôt des espoirs, vous. Il n'y a pas un petit paradoxe ?
Non, parce que centre de promotion des espoirs est aussi égal à former les futures élites du patinage suisse. Donc, c'était important aussi pour nous que la région de Neuchâtel découvre une fois le patinage de très haut niveau pour montrer aussi ce qu'on essaye de faire avec nos jeunes espoirs.
Les recettes financières, l'argent qui reste forcément le nerf de la guerre dans le sport notamment, ça influe aussi sur la décision de se lancer dans la mise sur pied des championnats de Suisse ?
Non, les championnats suisses sont organisés donc par l'Union Suisse de patinage qui perçoit les finances d'inscription. Pour nous, ce qui était vraiment important, c'était de collaborer avec l'Union Suisse de patinage sur un projet comme celui-ci. On n'attend pas de grands bénéfices d'une telle manifestation. De notre côté, on a plutôt la Coupe Neuchâteloise qui est plus destinée à ça.
On va se tourner vers l'aspect sportif à présent. Côté masculin, on se dirige vers un duel pour le titre national. Il y a le Valaisan Stéphane Walker et puis le pensionnaire du club de la Chaux-de-Fonds, Nicolas Todeschini, patineur du Jura bernois. Noémie a justement lancé un coup de fil à ce dernier. Va-t-on à nouveau vers une lutte entre ces deux hommes ? La réponse de Nicolas Todeschini.
C'est une lutte, je pense, plus personnelle qu'autre chose.
Ah voilà.
Je vais être honnête, je pense que le blocage avec Stéphane, il est plus dans ma tête que contre Stéphane. Je pense être encore malheureusement faible au niveau mental, ce qui est dommage parce que quand je vois ce que je peux faire à l'entraînement et ce que je serais capable de faire à la compétition, ça me rend triste. Je pourrais atteindre les 200 points sans problème. Et c'est vraiment cette faiblesse mentale est en train d'être travaillée. Je sens qu'elle commence à venir. Donc peut-être que les gens qui me regardent ou qui me connaissent, ils doivent se dire « Ouais, mais il dit n'importe quoi, c'est pas encore ça, blablabla. » Mais non, je le sens à force que ça vient. Ça vient petit à petit. Alors je vais essayer de faire mon max. C'est comme pour cette compétition ce week-end. Je vais pas pour être champion suisse. Je vais pour faire mon boulot, pour faire deux programmes très bien. Et je sais que si je fais deux programmes très bien, je sais ce qui va se passer. Voilà, c'est tout.
Les JO, forcément, c'est un but pour chaque athlète. La 2018, ça va pas
c'est
se
mort.
Faire. Voilà. Est-ce que, du coup, vous travaillez déjà en perspective de 2022 ?
Alors moi, je travaille 2022, 2026, 30, 34, je m'en fous. Je veux tout faire. Ah non. Enfin, je rigole quand je dis 34, mais je suis intimement convaincu que je participerai aux Jeux Olympiques un jour. Vraiment. Je le sais depuis que j'ai commencé, c'est au fond de moi. Je ne sais pas quand, mais j'y serai. Je suis persuadé que j'y serai. Et je pense que ce sera les prochains. J'espère que d'ici là, j'aurai battu ce stress. Il m'empêche de faire des performances.
Franco Godiano, vous êtes le président de l'organisation de ces championnats de Suisse de patinage artistique à Neuchâtel. Une lutte entre Nicolas Todeschini et Stéphane Walker, c'est ce que vous attendez ?
Oui, ce serait vraiment un beau spectacle de voir Nicolas tenir mentalement et le travail magnifique de Stéphane Walker. Je pense que là, on pourrait avoir un duel qui serait vraiment sympa. Mais comme l'a dit Nicolas, je le lui ai rappelé hier soir, je lui ai rappelé aussi l'année passée, il faut vraiment qu'il s'éclate sur glace et puis le mental suivra tout seul.
Du côté des dames, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre sur ces championnats de Suisse à Neuchâtel ?
Alors on a Alexia Paganini qui elle est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques 2018, donc très grande favorite de ces championnats suisses. Maintenant juste derrière on a Yumi Lehmann qui nous vient de Lausanne, qui a aussi toutes ses chances de podium, mais là aussi ça risque d'être un assez joli duel.
Et l'Arcturacien dans tout ça, il y a quelque chose, il y a une épingle à tirer du jeu du côté des dames ?
Dans l'arc jurassien, on espère dans les cinq premières Camille Chervet, qui patine pour le club de Neuchâtel. On espère qu'elle sera dans le top 5 de ces championnats suisses. Elle est toute jeune, elle a à peine 15 ans. On compte beaucoup sur elle. Sinon, au niveau de l'arc jurassien, il me semble qu'on a plus grand monde au niveau de l'élite.
18 dames en lice du côté de l'élite pour ces championnats de Suisse. Côté masculin, il n'y a que 9 candidats, si on peut le dire ainsi. C'est un sport qui, encore aujourd'hui, en 2017, a véritablement de la peine à attirer les garçons.
Oui, c'est très difficile d'attirer les garçons, c'est très difficile de garder les garçons. On sait à quel point c'est dur pour eux lorsqu'ils sont à l'école ou comme ça. Il y a quand même une connotation, il y a beaucoup de moquerie face à un garçon qui fait ce sport, malheureusement, encore aujourd'hui.
Et ben justement, Noémie a posé aussi cette question à Nicolas Todeschini. Le patinage artistique masculin souffre-t-il encore de quelques clichés ? Écoutez la réponse du patineur du Jura bernois.
Malheureusement, je pense que le patinage a mauvaise publicité. Je pense qu'il pourrait attirer beaucoup plus de monde, beaucoup plus de spectateurs, beaucoup plus d'athlètes dans les années à venir. Je ne sais pas si on arrivera à remédier à ça un jour, mais bon, ma génération de patineurs, c'est celle qui va attirer les prochains athlètes, les prochains spectateurs. Et j'espère qu'on arrivera à changer ça, quoi. Ce serait super.
Est-ce que du coup, la structure qui est mise en place est à la hauteur des espérances ?
Disons que personnellement, je pense que l'Union Suisse de patinage pourrait faire beaucoup mieux, vraiment. Mais je pense que les personnes qui en sont arrivées dans ce pays il y a quelques années, je pense à mon entraîneur Jean-François Ballester, je pense à Bernard Glesser qui m'entraîne aussi, je pense qu'ils font un boulot fou pour ce sport dans ce pays. Je trouve que ce qu'ils ont réussi à nous proposer, c'est vraiment, vraiment bien. Ils ont proposé une méthode d'entraînement, ils ont monté un centre d'entraînement, ils se sont bien débrouillés quand même.
On vous retrouve Franco Godiano. Nicolas Todeschini vous rejoint en disant que le patinage artistique a mauvaise réputation, mauvaise publicité également chez les garçons. Du coup, comment on peut lutter ? Comment luttez-vous contre ces clichés ?
Alors, il y a beaucoup de discussions avec les garçons qui sont dans le club. Donc, c'est déjà leur expliquer qu'il faut pas forcément écouter les moqueries, parce qu'une fois qu'ils vont grandir, ces moqueries vont disparaître. Que s'ils font des bons résultats et qu'ils vont se retrouver un petit peu dans la presse ou comme ça, là aussi, le regard sur eux va un petit peu changer. Donc, je pense que pour les coachs comme pour les membres d'un comité de club, c'est très important de beaucoup discuter avec un garçon qui a du potentiel, qui a du talent, et le motiver à ce qu'il continue malgré ce qui se passe autour de lui.
On comprend bien les discussions à l'interne du club. Est-ce qu'il y a aussi des discussions ou une certaine publicité qui est faite à l'externe pour essayer d'attirer plus de garçons ?
Non, malheureusement pas.
C'est par manque de moyens, comment on l'explique ?
Non, c'est simplement... Alors, je dirais que pour le club de Neuchâtel, on a une structure qui est un petit peu particulière. C'est que les cours pour les tout-petits sont donnés par la ville de Neuchâtel. Et puis ensuite, on sélectionne les enfants qui ont atteint un certain niveau pour qu'ils nous rejoignent au club. Et du coup, on fait très très peu de publicité pour attirer des nouveaux membres au CPNS, car on a un réservoir relativement important avec ces cours de la ville qui sont donnés par nos monitrices.
On a aussi entendu Nicolas Todeschini parler de structures pas forcément au niveau en Suisse. L'Union Suisse du patinage qui est un peu pointée du doigt par le patineur du Jura bernois. Cette Union Suisse, elle ne fait pas son travail selon vous ?
Non, clairement, ils font très bien leur travail. Il y a énormément de changements depuis 2-3 ans. Il y a une volonté d'aller de l'avant. D'ailleurs, on le voit dans ces championnats suisses élites. On a sélectionné que les 18 meilleurs, alors que l'année passée encore, c'était sur 25-30 patineurs. Il y a du travail qui est en train de se faire aussi dans les tests. Je pense que l'Union Suisse fait son travail, mais elle est aussi tributaire des attentes des clubs. On a tous des membres qui ont un certain niveau, suffisant ou pas, hein, pour aller dans l'élite. Mais qui ont réussi des tests et qui aujourd'hui doivent continuer là. Donc ce n'est pas, je dirais, aujourd'hui, ça va être un travail long pour l'Union Suisse de patinage, mais les changements sont en cours.
Et puis dans l'arc jurassien, de manière générale, ce sport, le patinage artistique, quelle est sa forme aujourd'hui ? Parce qu'on voit pas mal d'athlètes des clubs de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds sur ces championnats de Suisse, mais il n'y a pas grand monde du Jura et du Jura bernois finalement.
Ça dépend toujours des comités, la manière dont ils structurent leur club. Le club de la Chaux-de-Fonds, comme Neuchâtel, on est parti sur une voie de promotion de l'élite, donc du sport d'élite, en plus du sport pour tous. Donc c'est du gros boulot pour les comités et je pense que ça s'explique par le travail qui est fait, ben, comme il l'a dit, par Ballester et Glesser à Chaux-de-Fonds. Et de notre côté, c'est le travail de Myriam Loriol, Françoise Bonnard et Éric Newton qui nous permet aujourd'hui d'avoir des patineurs d'élite. Je dirais que dans les autres clubs, ils ont peut-être pas les mêmes ambitions. Ils sont plus clubs qu'on appelle Brighton Sport, donc sport de base, qui permet après aux enfants qui atteignent un certain niveau de partir soit sur Chaux-de-Fonds, soit sur Neuchâtel pour obtenir des entraîneurs un peu plus professionnel, pas un peu, mais professionnel.
Peut-être encore une question, Franco Godiano. On l'a dit tout à l'heure, 18 dames et 9 hommes en compétition. Il y a aussi deux couples et puis deux duos de danse sur glace. Là, on est quand même dans des catégories de niche. C'est ça qui explique ce faible nombre d'inscriptions sur les championnats de Suisse ?
Oui, au fait, tout ce qui est, je dirais, patinage en couple, alors c'est très difficile de trouver des entraîneurs. Déjà, Chaux-de-Fonds, ils ont Jean-François Ballester qui est tout à fait capable de faire du couple. Sur Neuchâtel, on n'en a pas clairement. Et les enfants ne sont pas entraînés dès le départ à partir dans du couple ou du synchronisé. Ça reste de l'individuel depuis qu'ils sont tout petits, 3-4 ans. Donc évidemment, en grandissant, s'ils ont jamais vu, s'ils ont jamais testé, ils en auront pas envie. D'ailleurs, j'ai deux filles qui patinent, je leur ai une fois posé la question, elles ont dit c'est exclu, j'ai toujours été un div, je reste un div. Voilà.
Voilà, au moins ça a le mérite d'être clair.
Voilà.
Les championnats suisses de patinage artistique, c'est donc jusqu'à demain à Neuchâtel. Une quarantaine d'athlètes sont en lice cette année.
Nous voici arrivés au terme de cette nouvelle étape de Cap Sport. Vous retrouverez ce périple en podcast sur notre site internet. Belle soirée, très beau week-end.
Et à vendredi prochain pour le dernier numéro sportif avant les fêtes. Très bon week-end et vive le sport.
Cap Sport.